OK, on continue dans notre étude sur les disciplines spirituelles pour la piété dans la vie chrétienne. On va terminer la leçon qui la discipline de lire la parole, lire la Bible. Alors, on avait regardé, on va reviser un petit peu ce qu'on avait vu la semaine dernière rapidement. Alors, on avait regardé que la Bible promet des généreuses bénédictions à ceux qui la liront fidèlement. On avait parlé de l'histoire de George Mueller, qui lisait sa Bible 4 fois par année. Donc, au cours de sa vie, il l'a lu au moins 120 fois. Et il disait qu'il était un homme heureux, 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 et que plus il lisait les Écritures, plus il les appréciait, plus il les aimait. On avait vu l'histoire aussi de John Song, qui avait lu sa Bible lors d'un moment qu'il avait été aux États-Unis. Il l'avait lu 40 fois en 6 mois, et qu'après, le Seigneur l'avait profondément utilisé lorsqu'il avait retourné en Chine. On avait vu aussi Philip Green, qui avait lu la Bible 584 fois en 28 ans. Alors, on avait regardé les points suivants. Qui doit lire la Bible? C'est tous les hommes, bien entendu. Et deuxièmement, les chrétiens. Les chrétiens de façon individuelle. Les chrétiens aussi en famille. Donc, c'est la responsabilité du père de famille de faire lire la Bible à ses enfants. Et on a la responsabilité de la lire aussi en groupe et de la lire en église locale, ce qu'on est en train de faire jusqu'à un certain point. Alors, comment on se doit de lire la Bible? On avait regardé que, selon des recherches qui ont été faites aux États-Unis, Barna Research Group, que seulement 18% des chrétiens qui se déclarent nés de nouveau, qui lisent leur Bible tous les jours. Et on avait vu que comment doit-on la lire avec régularité, avec attention, et qu'on se devait de la lire méthodiquement. Philip Green recommandait, lui qui avait été un homme qui avait lu la Bible si souvent, recommandait qu'on la lise avec un but précis, celui de mieux connaître Dieu et sa parole, avec un plan précis. Donc, la lire de façon systématique et quotidiennement, avec un certain nombre de pages des Saintes Écritures par jour, avec une cédule précise. Autrement dit, c'est une bonne chose de s'habituer à lire sa Bible au même moment de la journée, à tous les jours. Sinon, si on n'a pas d'habitude, on va passer droit souvent. Les premières nouvelles qu'on va savoir, on va essayer de passer une semaine, mais on ne l'aura pas lu du tout. Et avec un suivi précis, donc, s'organiser pour garder un suivi des lectures qu'on fait. Il y a des outils qui existent, moi j'en ai un, je vais en emmener probablement, si c'est pas dimanche, ça va être la semaine prochaine, des méthodes avec des petites fiches qui te permettent de lire la Bible très précisément, telle journée, tu lis tel chapitre, et quand tu le fais, au bout d'un an, tu as lu ta Bible une fois en un an. On se doit de la lire aussi systématiquement. Ça, c'est une chose que j'ai remarqué dans les églises dans lesquelles j'ai été au cours des années. Il y en a qui sont portés à lire uniquement le Nouveau Testament. Une grave erreur. Parce que la Bible nous dit dans le Nouveau Testament que l'Ancien Testament nous a été donné pour notre instruction et pour nous servir d'exemple. Comment peut-on tirer instruction de quelque chose qu'on ne lit pas? Comment peut-on tirer des exemples de chapitres qu'on ne lit pas, de livres qu'on ne lit pas? C'est illogique. Et de plus, s'il y a certains livres du Nouveau Testament qui seront presque impossibles à comprendre si tu ne fais pas référence à des livres de l'Ancien Testament. Un exemple, par exemple, le livre d'Hébreux. Essayez de comprendre le livre d'Hébreux sans retourner dans l'Exode, sans retourner dans Lévitique et d'autres passages. Alors, quelque part, la Bible se doit d'être lue d'un couvert à l'autre. Et j'ai trouvé un document récemment, je vais vous l'emmener, ceux qui vont venir sur le cours samedi, là, mais vous l'emmener. Le titre m'avait frappé, je me souviens plus où j'ai trouvé ça. Ça disait que les Français, il y avait une analyse qui avait été faite en France pour les Français savoir le nombre d'heures qui passaient devant la télé, le nombre d'heures qui passaient devant Internet, et il additionnait les deux. Puis là, il disait, si tu prendrais ce temps-là, puis tu le mettrais en lecture de la Bible, tu lirais ta Bible 13 fois en un an. Ça, c'est à quelque part, c'est très révélateur. Hein? Parce que si on prendrait notre temps de télévision, puis notre temps d'Internet, puis on l'additionne, c'est du temps qu'on passe. Des fois, ça a des liens avec la Bible, mais pas tout le temps. Quand ça n'a pas des liens avec la Bible, autrement dit, on est en train de dire à Dieu, ça, ce que je suis en train de lire, c'est important, mais lire ta parole, ce n'est pas trop important, parce que je n'y passe pas beaucoup de temps. Alors, le temps qu'on passe dans les Écritures est révélateur de notre relation avec le Seigneur. Plus on va suivre le Seigneur, plus normalement le temps qu'on va consacrer à la lecture de la parole devrait être long. Si on y donne 10 minutes, hey, l'autre jour, je vous ai donné, puis il confirmait ça dans cette nouvelle étude-là, là, confirmait que si tu lisais la Bible 10 minutes à tous les jours, que tu aurais lu la Bible une fois en un an, à peu près, approximativement. Il y avait là, il y a le petit tableau que je vous ai fait, mais le nouveau document que j'ai pris vient me dire la même information, qu'à peu près entre 10 et 15 minutes par jour, si tu la lis tous les jours, tu vas avoir lu ta Bible en un an. Mais quand on pense qu'il y a des chrétiens, ça fait 20 ans, 25 ans qu'ils sont chrétiens, puis ils n'ont pas lu encore la Bible une fois, même pas une fois, d'un couvert à l'autre, ça démontre qu'on met beaucoup de temps sur toutes sortes de choses qu'au point de vue spirituel, c'est plus ou moins valide, là, et on serait. Et je pense qu'une grosse chose, je suis en train de lire, de me préparer pour prêcher sur l'Apocalypse. Et au début, le gars, il prend, sur le livre que j'utilise, il prend une très, très grande partie du livre pour expliquer pourquoi c'est si difficile de comprendre l'Apocalypse de nos jours. Et une des premières raisons qu'il dit, c'est parce que les gens ne connaissent pas leur Ancien Testament. Parce qu'il dit que l'auteur Jean parle à des Juifs qui, eux, ces gens-là, il y a plein d'images là-dedans qui sont des références à des choses qui ont été mentionnées dans l'Ancien Testament. Et pour eux, c'était clair parce que c'était des gens qui avaient une connaissance qui était dans les Écritures. Il dit, c'est malheureux, les gens n'ont plus cette connaissance-là de nos jours. Et les interprétations qu'on fait de l'Apocalypse sont parfois carrément, des fois, là, fantaisistes et même folles un peu, là. À quelque part. Alors, c'est juste pour vous partager ça. Donc, on se disait que la Bible contenant 1189 chapitres, si on la lit tous les jours, on n'a pas besoin de lire bien ben longtemps pour la lire une fois d'un couvert à l'autre. Dites-vous une chose, si quelqu'un se fait 20 ans qu'il est chrétien, puis qu'il a lu sa Bible une fois par année, puis ça fait 20 ans qu'il est chrétien, donc normalement, ça devrait faire 20 fois qu'il lit sa Bible d'un couvert à l'autre. Il devrait commencer à connaître sa Bible dans son ensemble d'une façon pas mal structurée. Puis c'est pas le cas, je peux vous le dire. Je peux vous le dire par expérience que j'ai vu souvent dans des églises des gens qui se disent chrétiens depuis 10, 15, 20 ans et qui ont même. J'en ai connu un, je n'ai un à l'esprit, que je ne nommerai pas de nom, parce que c'est pas le but de l'exercice. C'est de 20 ans, puis il était tout fier de venir me dire qu'il était rendu à Deutéronome. Je ne vais pas le parler, là, mais j'ai eu envie de dire, moi, je suis pas très fier de toi. Parce qu'un chrétien qui se fait 20 ans, qui est chrétien, puis qui n'a pas lu sa Bible encore une fois, moi, je trouve que ça fait pitié. En tout cas, ça, c'est mon opinion. On se devrait aussi de la lire, on est en train de regarder de comment on se devrait la lire, on se devrait de la lire avec révérence. Quand on lit la Bible, on se doit de prendre conscience que c'est Dieu qui nous parle. Donc, la manière même dont on se tient physiquement, il y en a plusieurs qui lisaient leur Bible à genoux. Hein. Quand tu regardes l'histoire des grands chrétiens que Dieu utilisait, plusieurs d'entre eux lisaient leur Bible à genoux. Il y a comme une attitude. Physique même, qu'on se devrait d'avoir face au livre. Le livre est un livre saint. Et c'est Dieu qui nous parle. Et on se devrait prendre de plus en plus conscience de ce fait-là lorsqu'on la lit. C'est pas toujours le cas. Quand on est honnête le moindrement, là, on se rend compte que des fois, les idées nous partent dans tous les bords, tous les côtés. Des fois, quand un ami nous parle, on oserait-tu que les idées nous partent tout bord, tout côté, comme ça, pendant qu'il nous parle? Mais quand on lit la Bible et que les idées nous partent tous les bords, tous les côtés, c'est ça qu'on fait à Dieu. Dans le fond, ça a l'air, des fois, on a tendance à amenuiser la gravité de nos péchés. C'est un péché de lire la parole avec irrévérence. On se doit de la lire aussi avec une attitude expectative. Autrement dit, si on lit 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17, je me souviens, la première fois que j'ai un petit peu compris ce verset-là, j'avais été à Bethel, visité Bethel, là, plusieurs années à Sherbrooke. Puis, tu rentres sur le terrain, puis, en tout cas, je ne sais pas si c'est encore là, mais c'était là dans le temps, là, avec le gros verset de 2 Timothée 3, 16. Toute écriture est inspirée de Dieu, et dans le texte grec, c'est soufflé de Dieu. Donc, c'est le souffle, c'est le Saint-Esprit qui souffle dans la parole, est inspirée de Dieu, et elle est utile, et là, il mentionne 4 affaires. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Puis le verset 17, il dit « afin ». Quand on voit là, dans les Écritures « afin », c'est dans le but de que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Si on reprend les quatre choses que les Écritures nous disent qu'elle est utile, à l'enseignement. L'enseignement, c'est ce que l'on devrait savoir. Ça fait 20 ans que tu es chrétien, puis tu n'as pas lu encore ta Bible d'un couvert à l'autre. Comment veux-tu que Dieu t'enseigne des choses sur ce que tu devrais savoir? Si tu n'as pas lu, par exemple, certains livres des Écritures, comment peux-tu savoir ce que le Seigneur voulait te montrer dans ce livre-là, si tu ne l'as pas lu? L'enseignement, la conviction, donc c'est ce qu'on devrait rejeter dans tout ce qui nous arrive dans la vie, ce qu'on devrait conserver. La Bible est pleine d'enseignements sur ce côté-là. La correction, autrement dit, ce qu'on devrait corriger dans nos vies. Il y en a-tu des choses à corriger dans nos vies? Quand on regarde ce que les Écritures nous donnent de commandements, fais ci, fais pas ça, il y en a par milliers de commandements de ce style-là qui nous amènent à nous corriger. La Bible, souvent les Écritures vont nous parler de la Bible comme un miroir. Quand on se regarde la face d'un miroir, là, disons que tu as travaillé toute la journée dans la boue, puis dans toutes sortes d'affaires tout crottées, tu te regardes dans le miroir, tu le vois, t'es crotté. Ben, c'est la même chose, la Bible, c'est un miroir. Quand on se regarde dedans, on voit nos misères, nos problèmes, nos difficultés, nos manquements. Donc, à quelque part, on a besoin que, si elle nous montre qu'on est sale, spirituellement, bien, elle nous montre aussi qu'est-ce qu'on doit faire pour redevenir propre, confesser ton péché, te repentir, t'éloigner de ces choses-là. Et ça nous dit aussi que ça nous forme pour la justice. Vous regarderez, je vous défie d'étudier n'importe quelle biographie de grand homme de Dieu ou de grande femme de Dieu. Il y en a des deux parties, là. Je vous mets au défi de vous trouver une personne qui a fait des grandes œuvres au nom de Dieu, qui n'était pas un grand amoureux des Écritures et qui y passait un grand temps. Alors, il y a un lien direct entre le temps qu'on passe dans les Écritures et la manière dont le Seigneur va nous utiliser. Ça devrait nous parler, ça devrait nous dire, ben là, il faut absolument que je change des choses dans ma vie par rapport à ça, si on n'est pas correct. Si vous la lisez 2-3 fois par année, puis que vous faites des efforts pour la mémoriser, pour la méditer, pour l'étudier, pour la lire et pour l'écouter, il y a 5 choses à faire avec. Si vous les faites toutes, ben moi, je dis, vous êtes bien chanceux, vous êtes exceptionnel, je peux vous dire ça. On se doit de la lire aussi avec ferveur. Qu'est-ce que c'est lire la Bible avec ferveur? C'est de la lire avec la bonne attitude. La lire dans le but d'essayer de la comprendre, de la retenir et de la mettre en pratique surtout. Parce que la Bible, tu peux la lire 100 fois, puis si tu ne la mets pas en pratique, là, c'est une lecture superficielle. C'est même, je dirais que c'est un péché. Parce que tu as écouté ce que Dieu a à te dire, puis tu ne l'as pas mis en pratique, tu ne l'as pas obéi dans ta vie. Aussi, qu'est-ce que ça veut dire, la lire avec ferveur? C'est la lire dans un lieu tranquille. C'est pas le temps, quand tu lis ta Bible, d'écouter la radio et la télévision en même temps. Puis je l'ai vu faire souvent, là. On dirait que les gens se disent, ben là, il faut que je lise ma Bible. Puis on dirait qu'ils se dépêchent à lire ça comme pour se débarrasser. Mais si tu lis la Bible avec une attitude comme ça, tu serais bien mieux de ne pas en lire du tout. Donc, dans un lieu tranquille et dans un temps idéal. On a tous notre temps idéal. Il y en a que c'est le soir, il y en a que c'est le matin, il y en a que ça peut être n'importe. On le sait, notre temps idéal. Moi, mon temps idéal, c'est le matin, quand je suis frais et dispo, puis que j'ai mangé. Parce que si j'essaie de la lire avant d'avoir mangé, je vais juste penser à manger. Mais si j'ai mangé, puis je suis reposé, là, je m'assois, puis je lis la Bible. Ça a l'air insignifiant de mentionner ces choses-là, hein? Mais ce n'est pas insignifiant. Parce qu'il y a des gens qui lisent la Bible avec une multitude de distractions autour d'eux autres. Ils ne savent pas trouver un moment dans la journée où ils vont être seuls avec le Seigneur et ils vont écouter ce que le Seigneur a à leur dire. Et autre chose qu'on se doit de la lire, on doit la lire collectivement. On se doit de la lire lors de nos réunions en église locale. C'est une bonne habitude chaque fois qu'on se rencontre, que ce soit pour un déjeuner ou que ce soit... On a toutes sortes de moments de rencontre quand on se rencontre entre chrétiens. La mettre au centre de nos activités. Et la lire aussi dans nos cultes familiaux. Ça, c'est une chose qui se perd, mais je dirais... Disons qu'on prendrait un ratio de dire 100% des chrétiens... qui font un culte en famille. Moi, pour moi, un culte en famille, c'est pas juste un culte quand tu as des enfants. Un culte en famille, c'est si tu es tout seul avec ton mari, c'est une famille. Ses enfants ne sont pas toujours avec toi. Un culte, ça devrait se faire non seulement comme individu, mais ça devrait se faire aussi en couple. Il y a un vieux proverbe qui dit « Un couple qui prie est un couple uni ». Un couple qui lit sa parole ensemble, c'est un couple qui a des grosses chances de se rapprocher. Donc, lire en cultes familiaux, entre amis ou en petits groupes, autrement dit, on se doit de la lire le plus souvent possible. On se doit aussi de la lire avec prière. On ne se devrait jamais de lire la Bible sans prendre un temps de révérence, de prendre conscience devant qui on se trouve, devant qui que le Dieu qui veut nous parler, de lui demander. Tu sais, il y a des prières dans le livre des Psaumes qui dit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Ben, c'est pas, on peut la faire, cette prière-là. Avant d'ouvrir ta Bible, tu prends le temps d'aller devant le Seigneur et dire « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » C'est lui-même qui dit. C'est sa parole, c'est son esprit qui dit « Ouvre mes yeux », il ne parle pas de ceux-là, là. Il parle des spirituels, pour que je contemple. Contempler, là, si vous regardez dans un dictionnaire, qu'est-ce que ça veut dire, là? Ça veut dire l'émerveillement. Que je contemple les merveilles de ta loi. C'est plein de merveilles. Puis combien de fois on la lit, des fois, en superficialité, puis on ne comprend rien, puis on ne prend pas la peine d'aller voir les mots qu'on ne comprend pas, etc. Alors, on ne tire pas grand profit de ça. Et dans Acte 6, ça dit, « Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Où justement, le psaume 119, verset 18, dit, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Maintenant, la troisième question, « Pourquoi devons-nous lire la Bible? » La première réponse, c'est pour la gloire de Dieu. Dans l'ordre des Écritures, quand tu regardes les Écritures, la Bible nous dit que peu importe ce qu'on fait, qu'on mange, qu'on travaille, qu'on lave la vaisselle, qu'on corde du bois, n'importe quoi. On peut, si on s'élève l'esprit au moment qu'on fait l'action, qu'on présente, ce qu'on fait à Dieu, c'est pour sa gloire. On peut faire, si on fait bien ce qu'on fait, on glorifie le Seigneur. Donc, ça dit dans 1 Timothée 1, verset 17, « Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. » Donc, on se devrait de faire tout pour la gloire de Dieu. Et il y a plein de versets qui nous disent qu'on devrait tout faire pour la gloire de Dieu. Même ce qu'on fait ce soir, écouter la parole, on peut la faire pour la gloire de Dieu. Pour les bénédictions, bien entendu, autre raison qu'elle apporte aux croyants. On lit dans Deutéronome, chapitre 17, et versets 19 à 20. Et ici, il parle pour le roi. Mais moi, je trouve que le verset s'adresse à tout chrétien. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements, ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. Voyez-vous, il devra l'avoir avec lui et lire tous les jours de sa vie, afin, voyez-vous, le mot « afin », quand vous le voyez dans les Écritures, ça veut toujours dire « dans le but de », dans le but qu'il apprenne à craindre l'Éternel. Si tu lis ta Bible tous les jours avec les attitudes qu'on a parlé tantôt, là, ben tu vas apprendre à craindre l'Éternel. Puis s'il y a quelque chose que tous les chrétiens modernes ont besoin, plus que jamais, ou je dirais plus que jamais, on a besoin de craindre l'Éternel. La crainte de l'Éternel a beaucoup diminué chez les chrétiens, je dirais, des dernières années. Et si on ne la lit pas, elle n'augmentera pas. Alors ce passage nous enseigne que la lecture assidue et fidèle de la Bible apportera les 7 bénédictions suivantes. Première bénédiction, la crainte de l'Éternel, afin qu'il apprenne à craindre son Dieu. Et lire tous les jours de sa vie. Arrêtons-nous un petit peu sérieusement. Là. Examinons notre propre conscience. Est-ce qu'on lit la Bible tous les jours de notre vie? Il n'y a pas des matins, des fois, qu'on est un peu pressé. Puis, oh ben là, un matin, il n'y a pas le temps, je la lirai à soir. Tu arrives le soir, tu ne la lis pas. Puis, des fois, 2 jours. Des fois, 3 jours. Des fois, 4 jours. Des fois, une semaine complète sans lire la Bible. On serait supposé de la lire tous les jours. Donc, comment veux-tu que la crainte de l'Éternel se développe si tu ne la lis pas? Deuxième bénédiction, savoir à quelle loi obéir. Comment veux-tu savoir à quoi obéir si tu ne vois pas les commandements et les lois que Dieu te demande d'obéir? Troisième bénédiction, ça dit pour te garder humble. On va dire une affaire, quand quelqu'un lit sa Bible sérieusement, c'est pas trop long qu'il s'humilie. Pas trop long qu'il s'humilie. S'il s'humilie pas, c'est parce qu'il lit de travers, ça c'est chaud. Quatrième bénédiction, la stabilité, afin qu'il se détourne de ses commandements, qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche. La stabilité, on parle de stabilité dans la vie chrétienne. On a besoin de stabilité. Si on se rend compte, là, par l'écoute d'un sermon comme celui de ce soir, un petit sermon, là, que notre relation avec les Écritures, c'est pas tous les jours. Mais dites-vous une chose, vous avez des choses à corriger. Là. Donc, si vous voulez être stable, ça veut dire que tu commences à la lire tous les jours, puis le lendemain, tu la lis encore tous les jours, puis le surlendemain, encore tous les jours, jusqu'à la fin de tes jours. Vous allez voir, il y a des choses qui vont changer dans votre vie si vous le faites sérieusement avec l'attitude qu'on a parlé tantôt. C'est sûr qu'il va y avoir des choses qui vont changer dans vos vies. Cinquième bénédiction, une longue vie. La Bible dit même que lire la parole, ça prolonge la durée de ta vie. Parce que ça dit qu'il prolonge ses jours, dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, dans Deutéronome 17, afin qu'il prolonge ses jours. Sixième bénédiction, une continuation dans le royaume. Donc, il est en train de dire que si c'était un roi qui s'adressait, Mais il disait que s'il le faisait, son royaume pourrait être plus stable. Et septième bénédiction, des enfants bénis, parce qu'il dit lui et ses enfants. Parce que l'homme qui lit ses Écritures tous les jours et qui enseigne à ses enfants à faire la même chose en faisant un culte familial, il est en train de préparer son enfant à avoir du bonheur. Alors, les sept bénédictions vont amener aussi des résultats. Premier résultat, un équilibre mental. L'esprit a besoin de la parole. Deuxième résultat, un équilibre physique, social et émotionnel. Alors, le corps, nos relations avec les autres et nos émotions ont besoin de la parole. On vient de finir une série là, sur, on a fait 25 leçons, quelque chose comme ça, autour de ça, là, sur le corps. Les Écritures nous donnent énormément de commandements et de choses idéales à faire pour s'occuper de notre corps, pour honorer le Seigneur. Un équilibre aussi dans le monde matériel. Toute notre vie terrestre va être enrichie par la parole. Et le dernier, un équilibre familial. Quelqu'un qui a une famille et qui habituerait sa famille à lire tous les jours comme ça sa parole, la parole, il est en train de préparer une famille aussi heureuse. Et il y aurait aussi, bien entendu, un nombre infini d'autres raisons. Ce n'est pas une étude approfondie sur tous les bénéfices qu'on peut tirer de la parole de Dieu, mais il y en a très certainement beaucoup plus que celles qu'on vient de mentionner. Des applications pratiques, juste à partir de la leçon de la semaine dernière et cette semaine combinée. Il y a trois applications que je fais. Je dirais la première, suis-je satisfait de la manière dont je lis ma Bible présentement? Je vous laisse répondre dans votre propre esprit. Demandez au Seigneur de vous sonder à cet effet et de vous révéler vos manquements et ce qu'il faut pour procéder aux changements nécessaires. Vous remarquez que souvent, quand on parle de s'examiner, parce qu'on est très bon envers nous-mêmes, tu sais, des fois, là. On est très tolérant envers nos propres misères et nos propres faiblesses. Mais demandez au Seigneur de vous sonder, là, vous allez voir que c'est différent. Puis que le Seigneur, quand il sonde, il va jusqu'au fond, lui. Nous, qu'on sonde en superficialité. Deuxième application, que vais-je faire à compter d'aujourd'hui pour installer de solides habitudes de lecture dans ma vie? Suis-je disposé à y consacrer le temps et les efforts nécessaires? Implorez le Seigneur de vous accorder cette grâce. Vous remarquerez qu'on va toujours vers le Seigneur. Hein? Parce que si on dit, est-ce que je vais faire les efforts? Je vais changer. Suis-je disposé à, le temps, les efforts, Moi, je dis, pas avec ça, là, parce que tu n'iras pas loin. Ce serait mieux de dire, Seigneur, je suis conscient de mes misères, je suis conscient de mes faiblesses, je suis conscient de mes difficultés. Toi, accorde-moi la force nécessaire pour que je fasse ce que j'ai à faire. Et troisième, suis-je conscient des innombrables bénédictions qui sont rattachées à la lecture assidue et fidèle de la parole? Ai-je le désir fervent d'en bénéficier pour ma croissance et pour la gloire de Dieu? Amen.